Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
Salut Claudia.
Bonjour.
Je dois te dire que j'ai trouvé ça assez courageux de ta part de devoir aller sur les médias sociaux depuis, je dis plusieurs mois, c'est peut-être même un an et quelques.
Presque deux ans et demi maintenant.
Presque
déjà.
Deux.
Ouais,
okay,
ça
parfait.
Passe vite.
Où t'expliques que, bon, t'as fait retirer tes implants, ma mère, parce que ça te rendait malade. Qu'est-ce que ça te faisait?
Ben en fait, je souffrais énormément. Ça faisait déjà sept ans que je souffrais quand j'étais allée consulter un médecin parce que là, j'avais l'impression d'être une femme de 90 ans dans un corps de 40 ans. J'avais des maux de cou, des maux de dos. J'avais des douleurs extrêmes au coude et ça, c'est ce qui me faisait le plus mal. Je me réveillais la nuit pour en pleurer tellement j'avais mal au coude.
C'est étrange quand même.
C'est très étrange. J'avais de la difficulté à prendre des poils, des chaudrons. J'avais de la difficulté à soulever des choses. Ça en s'est suivi une immense fatigue. Je perdais mes cheveux. Je faisais beaucoup d'anxiété la nuit. J'avais de la difficulté à dormir. J'étais dépressive.
Un cauchemar.
Ben, je me reconnaissais plus. Je me reconnaissais plus. Alors, je consulte un médecin. Puis commence le processus de, bon, est-ce que tu as peut-être une maladie auto-immune? Est-ce que tu as un problème de glande thyroïde? Et on fait toutes sortes de tests pendant environ six mois. Puis à chaque fois, elle dit, bon, ben, Claudia, j'ai une bonne puis une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu es en parfaite santé. Hein, tous tes tests reviennent négatifs, donc c'est une bonne nouvelle. Cependant, je peux pas te dire qu'est-ce que tu as. Tu souffres encore, puis je comprends pas trop pourquoi. Alors, c'est très, très rare que je fais ça sur Facebook, parce que Facebook, pour moi, c'est une plateforme très positive. Hein. Je partage surtout des beaux moments dans ma vie, mais là, j'en ai le ras-le-bol. Et je pose tous mes symptômes sur Facebook et je demande de l'aide. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me dire si vous souffrez de ces symptômes-là, qu'est-ce que vous avez? Parce que je cherche, je ne trouve pas et je suis vraiment, vraiment très malade.
C'est en train de te rendre vraiment un peu...
Inapte, là.
Oui, oui.
Inapte.
Oui.
Je me lève cinq minutes, je dois me rasseoir. Tu sais, vraiment, là, je suis pas une bonne mère parce que j'ai plus d'énergie puis je suis pas capable de m'occuper de mes enfants, là.
Et la réaction de ton réseau Facebook, ça a été quoi?
Bon. Ben alors, la réaction qui a sauvé ma vie, c'est en fait une collègue de Cogeco qui ne travaille plus ici, qui est venue me voir le lundi matin suite à mon post. Et elle dit, Claudia, je vais te poser une question très indiscrète. Est-ce que tu as des implants, ma mère? Et moi qui en parlais très ouvertement. Pour moi, là, je parlais de mes implants, je le disais à tout le monde, ça me dérangeait pas du tout. Je dis, ben oui, pourquoi? Elle dit, parce que j'étais toi il y a un an. Je souffrais de la maladie des implants, ma mère. Je me suis fait retirer mes implants et j'ai une nouvelle vie maintenant. Ma vie est complètement changée. Première question, que ça mange quoi en hiver, la maladie des implants mammaires? J'avais jamais entendu parler de ça. Alors, commencez de voir. Je me renseigne. Je joins un groupe sur Facebook, le groupe de Julie Elliott, qui est une militante.
Ben, je la connais, Julie? Oui, oui,
oh, cool,
je sais très bien c'est qui, oui.
OK, fantastique. Donc, je me renseigne sur les symptômes et je commence à voir des chirurgiens parce que je me rends compte que c'est probablement ça.
Mais petite parenthèse, est-ce que vous avez toutes les mêmes effets secondaires ou non, ça change d'une personne à l'autre?
Il y a une panoplie de symptômes et c'est pour ça que le BII, la Breast Implant Illness, la maladie des implants mammaires, n'est pas encore reconnue comme une maladie officielle. OK? Parce qu'il y a une panoplie et il y a certaines femmes qui malheureusement se font retirer leurs implants mammaires et qui ont encore des symptômes. Et ça, c'était ma plus grande inquiétude.
Mais on peut soupçonner que c'est peut-être qu'il y a eu une fuite de ce qu'il y a dans les implants qui restent dans l'organisme.
Oui, ça se peut, mais ça dépend. Tu sais, il y a des implants au silicone. Alors ça, c'est une matière plus dangereuse. Moi, il était à l'eau saline. Donc, si jamais il y avait eu un écoulement, ben le corps, normalement, peut l'éliminer, l'évacuer. Il n'y a pas de problème. Faut pas oublier que l'enveloppe de ton implant mammaire, hein, la capsule, là, elle est en silicone. Fait que peu importe le liquide qu'il y a à l'intérieur, c'est quand même un corps étranger que tu mets dans ton corps et automatiquement, pour certaines personnes, le corps veut rejeter le corps étranger. Et donc, pour certaines personnes, ben, ça crée des symptômes comme ceux que j'ai vécu.
Claudia Marquez, on a pensé à t'inviter aujourd'hui parce que dans le Journal de Montréal, aujourd'hui, il y a un chirurgien plasticien, Dr. Steven Nicolaidis, qui a expliqué avoir effectué des centaines de retraits d'implants depuis six ans. Et là, il a cessé carrément de faire des opérations d'augmentation mammaire. Toi, tu as eu tes implants en quelle année?
Moi, j'ai eu mes implants, j'avais 20 ans, donc c'était en 98.
Okay.
Et la raison pour laquelle j'ai choisi de me faire implanter, c'est parce que j'avais un sein tubéreux. Alors, un sein tubéreux, c'est un sein qui se forme de manière anormale, c'est-à-dire que le sein ne se développe pas. Mais le mamelon, oui. Donc, ça te fait comme un petit pompon. T'sais, ça fait pas une shape bien, bien jolie. Mm-hmm. Et j'étais hyper complexée de ça. J'avais de la difficulté à avoir des relations intimes sans enlever ma brassière. Ça me dérangeait énormément. Donc, je me suis assise avec mes parents. Puis, je leur ai dit, moi, c'est ce que je veux parce que je me sens pas belle, je me sens pas sexy. Ils m'ont supportée là-dedans. Et c'était à l'âge de 20 ans que je les ai faites installer.
OK. Puis, tu les as eues combien de temps avant que tu commences à avoir des problèmes de santé?
Bien, en fait, je les ai fait. Si on peut appeler regonfler, un petit refill, une fois que ma fille est née. Donc, il y a environ 7 ans de ça. Et c'est vraiment suite à ça que les symptômes ont commencé. Donc, ça faisait 12, 13 ans que je les avais, mes implants. Mais ça dépend de chaque femme. Il y a des femmes qui ont des symptômes 6 mois après, 1 an après, 2 ans après. Il y a pas de temps. Et il y a des femmes qui en ont tout simplement pas. Hein. Ça, c'est important de le dire. Là, moi, je suis pas anti-chirurgie plastique, mais je suis pro-information. Mm-hmm. C'est important que les chirurgiens l'expliquent à leurs patients, patientes, que ça peut arriver parce qu'il y a une petite lumière qui s'allume quand tu commences à être malade.
Mais on apprend aussi, moi, j'imagine qu'à 20 ans, ils ne pouvaient pas savoir ça. La science ne savait pas encore tout ça. Ou...
Potentiellement, mais là, ils savent. Mmh. Fait que moi, là, ce que j'aimerais voir, j'aimerais que les gens, les chirurgiens, pardon, soient pro-information et qu'ils avisent leurs clients, clientes, que c'est quelque chose qui peut
arriver. Ça change un implant? Est-ce qu'on peut changer l'implant? Puis oui. Là, à un moment donné, le symptôme n'est plus là.
Ça se peut, mais moi, je voulais pas prendre le risque. Pour moi, c'est important de complètement retirer l'implant mammaire, de retirer la capsule autour également pour me donner le plus de chances possible de guérir.
Est-ce que ça a été automatique? C'est-à-dire que on a retiré tes implants et là, tu as retrouvé la santé?
Next day. Instantané. Là, je me disais, ça se peut pas. C'est les anti-inflammatoires, c'est les antidouleurs.
Ou l'effet placebo.
Je me disais, voyons, ça n'a pas d'allure. La journée d'après, là, le cou me faisait plus mal, le dos me faisait plus mal. Ce qui a pris le plus de temps, c'est mes coudes. Ça a pris environ, je dirais, 3 mois avant que la douleur s'estompe complètement. Mais après 3 mois, là, je m'entraînais 5 à 6 fois semaine. J'avais de l'énergie, je dors bien, mes cheveux poussent. Je suis la fille que j'étais avant, je suis une fille pleine d'énergie, là. Fait que pour que j'aille passer 2 semaines avant ma chirurgie à être couchée 24 heures sur 24, c'est pas normal. Fait que moi, je remercie la vie que ça ait fonctionné pour moi. Parce que comme je l'explique, c'est pas le cas pour toutes les femmes. C'est pas tout le monde qui guérisse à 100%. Puis dans mon cas, ça l'a changé ma vie.
J'ai une question, puis peut-être que t'as pas la réponse, mais tu sais, il y a des gens qui vont avoir des implants au visage.
Oui.
Pas nécessairement au sein, mais il y a des ajouts, là, des trucs qui peuvent se faire. Est-ce qu'il peut avoir le même genre de réaction, sais-tu?
C'est drôle que tu mentionnes ça parce que une fois que j'ai parlé à mon médecin qui faisait les tests, qui faisait mon suivi, que ça se pouvait que ça soit ça, en tout cas dans mon esprit à moi, elle dit, c'est drôle, elle dit, j'ai connu une femme qui a fait mettre une mèche pour la vessie, pour soulever la vessie, qui avait les mêmes symptômes que toi. Donc, effectivement, pour elle, c'était ça le corps étranger qui a fait en sorte qu'elle a développé toutes sortes de symptômes.
Pour être clair, Claudia Marquez, c'est ça. Tu n'es pas en croisade contre les implants.
Non.
Ce que tu veux, c'est que les femmes qui nous écoutent, qui te suivent sur tes plateformes, sachent que c'est peut-être un effet secondaire possible quand on a des implants mammaires. Et aussi, peut-être que le monde médical mette ça dans sa liste de problèmes potentiels.
Ben oui, effectivement, parce que comme je dis, j'aurais souffert beaucoup moins longtemps si j'avais su. Mais est-ce que ça aurait changé ma décision? Puis ça, c'est important de le dire. Il y a des femmes qui me disent, moi, j'en veux. Mais je te dis pas de pas en mettre, tu sais. Mais sois consciente que ça peut arriver. Parce que toute femme a le droit de s'aimer dans son corps. Puis si ça prend une augmentation, maman, pour que tu te sentes bien, vas-y, ma belle. Moi, je fais juste t'aviser que c'est quelque chose qui peut arriver, tu sais. Puis aujourd'hui, moi, ça m'est arrivé. J'ai plein de cicatrices. J'ai beaucoup moins de poitrine que j'avais avant, mais je me sens plus belle que jamais parce que j'ai la santé. Je suis une meilleure mère pour mes enfants. Puis je suis très, très heureuse d'avoir des petits seins de 18 ans sur un corps de femme de 45 ans.
Chanceuse!
Qui tiennent ça!
Formidable message, tout en nuances. Merci beaucoup, Claudia. Merci.
Avec plaisir.
Et santé.
Santé, santé.
C'était Claudia Marquez, animatrice à notre station sœur anglophone The Beat, là, qui racontait avoir eu toutes sortes de problèmes de santé qui se sont manifestés. Et elle a fait enlever ses implants mammaires. Bang, la santé est revenue. Vous l'avez entendu, ça ne veut pas dire « allez pas ». vous faire faire cette opération-là, mais soyez avisé qu'il peut avoir des problèmes. Merci encore.
Vous écoutez les meilleurs moments du Québec maintenant.
Je veux revenir sur l'histoire d'Amélie Champagne qui s'est suicidée il y a près de 3 semaines. C'est une histoire d'horreur qui en dit long sur les ratés du système de santé au Québec. Amélie avait 22 ans. Elle avait des maux physiques. Ça a pris longtemps avant qu'elle soit diagnostiquée. Il semble que c'était la maladie de Lyme. Et ces maux physiques étaient tellement intenses, ça lui causait tellement de tourments que ça a aussi dégénéré en problèmes mentaux. De l'anxiété, incapacité à dormir, signes dépressifs, des tendances suicidaires aussi. Dans la presse, j'avais une chronique sur la mort d'Amélie Champagne basée sur une entrevue avec son père, Alain. Monsieur Champagne s'est aussi confié à Paul Arcand ce matin. On va écouter un extrait de cette entrevue.
C'est complètement inacceptable de cogner à des portes, de défoncer des portes comme on l'a fait, puis de se faire rejeter comme ça, là. Puis de se faire dire que ma fille est pas en danger immédiat pour elle-même, alors qu'elle vient de tenter de se noyer 2 jours avant, qu'elle n'a pas dormi. On me le retourne dans un pire état qu'avant. Puis qu'elle commette l'irréparable juste quelques heures après. C'est quoi la définition d'immédiat, là? On va dire.
Ça fait des années que je raconte des histoires de Québécois, de Québécoises de tous âges là, qui ont des problèmes de santé mentale, qui lèvent la main, qui veulent de l'aide et il se passe rien ou presque. Je compte plus le nombre de témoignages que j'ai entendus qui suivent une trajectoire là, qu'on peut qualifier de typique. Quelqu'un est malade, a des symptômes dépressifs, a des idées suicidaires. Parfois même, la personne est passée à l'acte sans parvenir à se suicider. La personne est envoyée à l'hôpital et elle se dit « ils vont me soigner ». Souvent, ce sont des proches qui forcent l'admission à l'hôpital. Un frère, une blonde, un parent, père, mère, comme dans le cas d'Alain Champagne et sa conjointe Joanne. Là, les proches se disent « enfin, t'es à l'hôpital, elle va être soignée ». Ils vont prendre soin de mon chum, de ma sœur, de ma fille, de mon fils, de ma mère, de ma filleule, de mon ami. Sauf que non, c'est pas automatique comme ça. Je dis pas qu'il y a pas de soins, parce que oui, il y a des bonnes histoires, des bonnes prises en charge. Mais très souvent, on donne un congé rapide à ces gens-là avec, parfois, rien de plus qu'une prescription pour des médicaments et une référence pour aller dans un organisme communautaire. Je compte plus le nombre de témoignages au fil des années que j'ai reçus dans ce genre-là. Mais parfois, la personne se tue, comme Amélie. J'aimerais ça vous dire combien de Québécois se tuent dans une année après avoir été admis aux urgences. Ça n'existe pas, cette statistique-là. On est réduit à compiler des anecdotes à gauche et à droite. Juste moi, dans les dernières années, j'ai eu connaissance d'au moins 4 histoires de personnes qui ont été admises aux urgences, dans un état de détresse psychiatrique, avec des pensées suicidaires, parfois même après avoir fait un essai, qui ont été relâchés, qui ont eu leur congé rapidement, et qui sont passés à l'acte et qui se sont suicidés. 4 histoires que moi je connais, une personne. Et chaque fois que j'écris là-dessus, que j'en parle ici à la radio, je reçois d'autres témoignages de la même eau, du même genre. Là, il y a une enquête du coroner dans le cas d'Amélie Champagne. Il y a une enquête aussi, là, si j'ai bien compris, ordonnée par le ministre Lionel Carman. Parfait. Une fois qu'on va avoir identifié les rouages du système qui ont flanché, qui ont laissé tomber Amélie Champagne dans les cracks du plancher du système, il va se passer quoi? Moi, ma réponse est bien plate, puis elle tient à un mot, à rien. Je vous le dis, il va rien se passer. Parce que le système sait ce qui marche pas. On manque de lits, on manque de place, on manque de personnel. Puis ça a un effet sur la qualité des soins. On peut dire ça quand vous avez un problème de genou. On peut dire ça quand vous avez un problème de santé mentale. Amélie Champagne a passé 3 jours et 2 nuits aux urgences de l'Hôtel Dieu à Sherbrooke, sur une civière, dans un couloir. Comme on dit, en observation. Je sais pas ce qu'ils observaient. Je sais ce qu'Amélie, elle, observait. Elle observait quand elle était sur une civière aux urgences de l'Hôtel Dieu de Sherbrooke, la misère psychiatrique humaine, des gens en psychose autour d'elle. C'était le chaos autour d'elle. Elle avait besoin de dormir. Elle pouvait plus dormir depuis longtemps. Quand vous dormez pas, vous devenez épuisé mentalement et ça peut vous pousser au suicide. Elle avait tellement besoin de dormir, elle aurait eu besoin d'une chambre. Ben, essayez de dormir dans ces conditions-là, dans un couloir qui est éclairé avec du monde qui crie et des allées et du va-et-vient autour de vous. Donc, je ne sais pas ce qu'ils observaient pendant les 3 jours et 2 nuits où Amélie Champagne était sur une civière à l'Hôtel Dieu de Sherbrooke. Mais je sais que dans les 48 heures avant son admission à l'hôpital, Amélie avait verbalisé l'envie de se pendre et elle avait tenté de se suicider par noyade. Pourquoi on lui a pas donné un lit puis des soins dans une chambre privée, en toute sérénité? Réponse, sans doute parce qu'il n'y en avait pas de lit. On l'a vécu dans la COVID pour les soins intensifs. On le vit pendant toute l'année aux urgences. C'est un problème de lit. Un problème de lit, c'est un problème aussi de personnel. Si tu as 10 patients à traiter, puis que tu as 2-3 lits aux urgences psychiatriques, tu peux pas faire de miracle. Tu vas aller à ce que tu juges cliniquement comme étant les cas les plus pressants. Je sais pas si c'est ça qui est arrivé à Amélie. On va voir l'enquête, dont les conclusions vont nous parvenir, je sais pas trop quand. Mais c'est ça qui arrive tellement, tellement souvent. Le père d'Amélie, Alain Champagne, voulait que l'Hôtel Dieu garde sa fille. Ça, c'est, disons, la couche la plus absurde de cette histoire-là. Et à l'hôpital, tout ça se fait au téléphone, évidemment, là, on lui a répondu « Impossible, Amélie ne réside pas sur notre territoire. » Et on lui a dit aussi à M. Champagne « Ben, votre fille doit être soignée dans son code postal. » La famille d'Amélie a un chalet en Estrie. Le père d'Amélie a dit « Ben, mettez le code postal de mon chalet dans son dossier, ça va régler le problème. » Réponse de l'hôpital, selon le père, « On peut pas faire ça. » Donc, l'histoire va aussi tirer au clair l'histoire, le volet absurde du code postal d'Amélie Champagne. Mais je peux vous dire ceci, ça existe, refuser des traitements des gens au Québec sous prétexte qui sont pas dans l'hôpital de leur CIS ou de leur CIUS régional de résidence, dans leur code postal. J'ai plein d'histoires du genre depuis ce matin. Du monde de Thetford Mines qui se font refuser des soins à Québec. Du monde du nord de Montréal qui se font refuser des soins au CHUM. Parce que le CHUM, c'est dans le sud de Montréal et c'est pas leur CIUS ou le CIS. Je veux juste souligner que quand t'es en détresse psychologique, tu t'en contre-Christ du CIS et du CIUS. Donc, dites-moi pas ça existe pas. Ça existe, même si c'est illégal. Même si c'est illégal. Et tout ça pose aussi une autre question. C'est celle de la cruauté bureaucratique involontaire qui est quand même de la cruauté. Il y a quelques années, j'ai fait une chronique sur un enfant poqué, handicapé, des troubles neurologiques, quelqu'un qui n'a pas gagné la loto de la vie, on va dire ça comme ça. Il habitait à Laval, cet enfant-là, tout petit. Et pour sauver de l'argent, parce que dans le couple, il y a toujours un des parents qui est à des rendez-vous médicaux, à des suivis, quand un enfant est poqué comme ça, les parents ont décidé de vendre la maison à Laval pour aller habiter dans une maison plus petite, moins chère. Je pense que c'était à Sainte-Anne-des-Plaines. Donc, ils ont traversé la rivière des Mille-Îles. À Laval, le petit était suivi par des spécialistes dans un établissement du gouvernement. Là, j'oublie le nom exact. Et là, comme je vous disais, la famille a décidé de déménager. On leur a enlevé tous les services que l'enfant avait parce que ils avaient déménagé au nord de la rivière des Mille-Îles. Donc, tous les spécialistes qui suivaient cet enfant-là ont cessé de suivre l'enfant. Et on a mis le kid sur une liste d'attente quand il est arrivé dans la patente de la santé dans les Laurentides. Trouvez-vous que c'est cruel? Oui, mais il y a une autre couche de cruauté qui va vous montrer à quel point le système peut être cruel dans sa bêtise bureaucratique. Parce que le système voit les humains comme des choses à mettre dans des cases, comme toutes les bureaucraties du monde. Puis le système de santé, c'est une immense bureaucratie au Québec. Donc, le plus cruel dans l'histoire de l'enfant dont je vous parlais, c'est que le petit avait une marchette quand il était à Laval. Marchette fournie par le centre gouvernemental qui le suivait. Et quand l'Agence de la santé a découvert que la famille du petit avait déménagé l'autre bord de la rivière des Mille-Îles, à Sainte-Anne-des-Plaines, on a dit à la famille, vous allez nous redonner la marchette. Parce qu'il relevait désormais de l'Agence de la santé des Laurentides. Pour le système, c'était tout à fait logique, même si c'était cruel. Donc, parlant de bureaucratie, il y avait une nouvelle aujourd'hui qui a été sortie par Radio-Canada. Il y a des longues listes d'attente de gens qui veulent voir des psychologues, qui ont besoin de thérapie. Des longues listes d'attente, c'est gênant. C'est pas gênant pour le système s'en fout, mais c'est gênant pour les politiciens qui promettent toujours de réduire les listes d'attente. Alors, les politiciens font des plans d'action, ils promettent de l'accès aux services. Ils donnent des acronymes à ces plans d'action-là. Hein. Il y a rien dans le système de santé qui n'a pas un acronyme. Et ce que Radio-Canada a sorti aujourd'hui est très intéressant, c'est que les psychologues du réseau ont de la pression pour vider les listes d'attente. Voici un des trucs. Le psy vous appelle, vous êtes sur une liste d'attente. Philippe Quentin est devant moi, on va dire que je suis le psy. Monsieur Quentin, bonjour, bonne nouvelle, je suis votre nouveau psychologue attribué par l'État. Voici notre première prise de contact. Monsieur Quentin va se dire, enfin, ça fait 6 mois que j'attends, j'ai mon psy, ça y est, je vais être traité. Sauf que non, la prise de contact sert à une chose, c'est d'enlever le nom de M. Quentin sur la liste d'attente. On le verra dans une couple de mois. Donc, plusieurs témoignages en ce sens-là à Radio-Canada. Et la liste d'attente rétrécit. Magie. Je sais qu'ils font la même maudite affaire parce qu'on me l'a raconté en santé mentale. Première ligne, en service jeunesse aussi. On le fait dans les urgences. Dans les urgences, il y a quelques années, souvenez-vous, on avait appris qu'on déplaçait des patients dans une autre unité. On avait créé une unité de débordement. Ça faisait baisser les temps d'attente officiels. Ça permettait à plusieurs ministres de dire, voyez, on a agi. Les gens n'étaient pas soignés plus vite, mais dans les petites cases, ils étaient soignés plus vite. Bref, le système se protège. Et ça, c'est à ça que je pense quand je pense à Amélie Champagne qui s'est suicidée le 11 septembre dernier à l'âge de 22 ans. Le système se protège toujours d'abord et avant tout. Ce qui compte pour le système, c'est les petites cases. Et l'ennui, c'est que pour faire rentrer des humains dans les petites cases bureaucratiques, faut les plier, les humains. Faut les plier en salle. Puis des fois, à force de trop les plier, ben, ils en meurent. Amélie n'a pas été prise en charge et on va se laisser sur un autre extrait de l'entrevue de son père, Alain Champagne, chez Paul Arcand.
Il y a eu deux belles opportunités au Douglas et à Sherbrooke de prendre une patiente en charge qui parle ouvertement de se suicider ou qui vient de faire une tentative, puis on le fait pas. Ça, c'est un, pour moi, c'est une incompréhension avec laquelle je vais devoir vivre pour le reste de mes jours. Là. T'as beau défoncer des portes, puis... Le système rejette les patients. Ça veut dire, c'est ce qu'on a vécu. Je veux pas généraliser, c'est ce qu'on a vécu. Là.
Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985FM.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
Parlons un peu de culture québécoise. C'est un sujet qui sera toujours extrêmement sensible au Québec. Pourquoi? Ben parce que la langue nous différencie, la culture nous différencie de cette mère anglo-saxonne en Amérique. Et il y a une étude qui a été médiatisée la semaine passée dans des chroniques, notamment de Marc Cassivi, aussi de Maxime Penneau-Jobin dans la presse. C'est des professeurs de l'École supérieure en arts et technologies des médias du cégep de Jonquière qui ont fait une étude auprès de des étudiants du cégep, 600 étudiants, qui ont été sondés sur leur consommation de produits culturels québécois, notamment la télévision. Et en marge de cette étude-là, il y a une anecdote racontée par une prof qui dit, dans une de mes classes, j'ai demandé, savez-vous qui est Véronique Cloutier? Il semble que dans la classe, il n'y a pas grand monde qui sait qui est Véronique Cloutier, qui est pourtant une personnalité extrêmement connue au Québec. Ça a mené à une chronique de Marc Cassivi intitulée « Qui est Véronique Cloutier? »
C'est Véroqui.
Véroqui, ouais. Exactement, Véroqui. Et ça parle, tout ça, de l'adhésion des jeunes pour les plateformes à la Netflix et autres. T'sais, nous autres, on était prisonniers des postes qu'il y avait dans la télé. On était prisonniers beaucoup aussi de ce qui, en termes de musique, se jouait à la radio, comme des C'est quoi, des CKMF, etc. Aujourd'hui, les jeunes ont des horizons beaucoup plus larges parce que les plateformes sont plus nombreuses. Moi, je suis toujours fasciné quand je vais sur Spotify ou sur Apple Music, que je tape une chanson, puis Christy, je peux l'écouter là, tout de suite, comme ça, en un clic. Le vieux qui est en moi est toujours surpris. L'adolescent de 12 ans qui enregistrait avec des cassettes BASF 90 minutes des tunes à radio pour pouvoir les écouter.
On l'attendait.
Puis la plupart de nos chansons, on avait aussi l'animateur qui annonçait la chanson. Tu sais, c'était
on avait Musique Plus aussi.
On avait Musique Plus aussi. Bref, aujourd'hui, les jeunes ont accès à tout plein de plateformes et tout plein de formes de produits culturels. Donc, cette étude-là, les propos de la prof ont fait beaucoup jaser ces derniers jours. Et il y a une étudiante d'ATM, du programme Art et technologie des médias à Jonquière, qui a fait un statut Facebook qui a été partagé plus de 500 fois, où elle s'inscrit en faux contre ce qui a été rapporté dans certaines chroniques, contre certaines conclusions qu'on peut tirer là-dessus. Donc, je suis heureux, Catherine et MC, d'accueillir Juliane, Juliane Doucet, qui est étudiante à ATM au cégep de Jonquière. Salut, Juliane!
Bonjour.
Ben, je vous remercie d'être avec nous, de prendre le temps. Écoutez, je vais lire un petit bout de votre statut Facebook, OK, qui a été extrêmement commenté, extrêmement partagé. Vous dites que, comment vous dites ça? Vous dites, nous autres, là, on n'est pas branchés sur le câble. On n'a pas les moyens tant que ça d'être sur le câble. Puis, Véronique Cloutier, une animatrice de 47 ans qui parle pas de choses qui nous intéressent, c'est sûr qu'on la connaît pas tant que ça. Mais là, je veux que vous me racontiez comment ça s'est passé quand vous vous êtes posé la question, vous êtes fait poser la question en classe, à savoir ce qui c'était, si vos camarades, parce que vous n'étiez pas dans la classe, mais vos camarades l'étaient, s'ils connaissaient Véronique Cloutier. Ça a été quoi les réactions?
Ben, premièrement, on va mettre de quoi au clair. On connaît Véronique Cloutier. Je veux dire, c'est un emblème du Québec. Puis, je veux dire, si tu connais pas Véronique Cloutier, veux pas, t'habites dans une quelque sorte de grotte. Mais lors de la présentation de l'émission, il faut savoir qu'il y avait plusieurs étudiants internationaux dans la pièce. Donc, c'est sûr que ces personnes-là, n'habitant pas au Québec, n'étaient pas natifs de notre province, ils ne pouvaient pas vraiment savoir c'est qui. Donc, ces personnes-là ont affirmé haut et fort, non, on ne connaît pas c'est qui. Tandis que les autres étudiants étaient un peu plus en mode... On sait c'est qui, mais tu sais, ça nous intéresse pas. Puis en même temps, c'est tout à fait normal. Véronique Cloutier, elle a 47 ans. Puis c'est une femme qui vit une réalité bien, bien différente de la nôtre. Puis l'émission qui montrait aussi, c'était une émission de déménagement. Tandis que nous, on est plus préoccupés en train de faire des devoirs et essayer de payer une épicerie qui a un peu d'allure, tu sais.
Mais je dois préciser aussi, Juliane, parce que il y a l'étude, puis il y a les commentaires de cette prof-là en marge de l'étude, là, quand elle a expliqué la démarche de l'étude. Mais dans l'étude, Véronique Cloutier, elle est l'animatrice la plus connue parmi les 600 personnes qui ont été sondées au collège. Je veux dire, quand on leur demande d'identifier une émission, une personnalité radiophonique favorite, ben c'est Véronique Cloutier et son émission sur Rouge FM qui est loin devant tout le monde avec 15,9% des répondants répondantes.
Exactement. Je veux dire, il faut savoir que de la manière qu'elle présentait, c'était surtout pour l'analyse de l'émission, donc le format qui était présenté. Et puis lorsqu'elle a vu la réaction des élèves qui était pas bof face à l'idée de voir cette animatrice-là, eh bien, ça lui a tapé à l'œil de « Oh, là, ça veut dire qu'ATM ne connaît pas Véronique Cloutier. » Mais les sondages, c'est des faits véridiques. Je veux dire, ça, dans le sondage, il montre qu'on connaît Véronique Cloutier puis que c'est une de nos animatrices préférées. Donc, c'est plus la question de lorsque la prof a vu ça, a eu la rencontre avec M. Cassivi, c'est M. Cassivi qui a décidé de prendre cette information-là et d'en faire tout un plat et de mettre ça en mode pour... Nous, on a vu ça comme une attaque en ATM, on a vu ça comme attaquer la génération sur notre manque de culture qui est tout à fait non fondée, là.
Quand vous dites que c'est non fondé, écoutez, la culture, c'est large, là, Juliane Doucet, là. Ben, expliquez aux gens ce que vous consommez en termes de produits culturels québécois, vous, une étudiante d'à peu près, là, j'y vais au pif, là, vous devez avoir 18-19 ans environ, j'imagine.
Je suis plus dans le 20 ans, mais okay. Bravo pour l'essai. c'est sûr que nous, le petit écran n'est plus une forme de contenu qu'on est habitué d'écouter. Le forme de quotidien ou même hebdomadaire, on n'a pas le temps en tant qu'étudiant de pouvoir se permettre de s'asseoir devant une télévision à chaque heure de la même date et d'écouter cette émission-là. Donc, on prend notre contenu à d'autres endroits, c'est-à-dire sur les balados, en musique, même au cinéma. Il y a aussi beaucoup d'auteurs qu'on apprécie. Je pense à Sarah Maud Beauchesne avec son nouveau livre « L'acte d'amour ». Même Daniel Bélanger, qui est un musicien incroyable, qui a même maintenant sorti son premier livre de poésie « Poids lourd ». Donc, c'est toutes des choses comme ça qu'on apprécie énormément, mais que le petit écran, lui, on le regarde avec une envie moins... on a moins le goût de plonger dedans. Puis c'est correct aussi.
OK. Vous regardez peu la télévision québécoise, Juliane.
Ben, on regarde la télévision québécoise. C'est juste qu'on la regarde pas de manière heure précise selon le câble à la maison, comme on est habitué. C'est nous, on va beaucoup plus utiliser les applications telles que icitout.tv ou Netflix dans ce genre-là. Parce que même sur Netflix, il y a du contenu québécois. Puis on l'assume qu'on écoute notre contenu québécois-là puis qu'on y fait. Et m'entends-tu, si je pense, et autant sur icitout.tv que Netflix, il y a des certaines personnes qui, oui, n'ont pas la possibilité d'avoir icitout.tv ou qui sont tout simplement pas au courant d'eux. Et là, alors, ils utilisent Netflix pour pouvoir l'écouter. C'est ça aussi qu'il faut qu'on comprenne.
Bonjour, Juliane. Je suis la chroniqueuse culturelle de l'émission. Écoute, moi, je suis curieuse de savoir, quand j'ai fait mon cours en radio-télévision, on nous disait, soyez curieux. Allez ailleurs. Essayez de connaître ce qui se fait en télévision. Essayez de connaître ce qui se fait en musique, tu sais, dans votre champ d'expertise. Est-ce que vous avez cette curiosité-là? Tu sais, quand je te parle qu'il y a peut-être Chouchou qui est sur la plateforme de Nouveau, ou qu'il y a Avant le crash qui est sur Tout.tv, mais qui est diffusé aussi en même temps à la télévision. Avez-vous au moins, faites-vous l'effort de curiosité intellectuelle d'aller voir ce qui se fait ou vous gobez simplement ce qu'on vous propose sur les plateformes?
Je crois qu'on est une des générations les plus curieuses que j'ai pu voir. T'sais, on compare avec souvent, par exemple, juste les baby boomers, que souvent, ils vont prendre ce qu'ils ont et c'est correct comme ça. Nous, on a eu la chance d'avoir un cellulaire en naissant. Donc, cet accès-là rapide et efficace à plusieurs contenus, autant à l'international que national, on a la chance de regarder des milliers et des milliers de contenus, autant québécois, autant international, comme j'ai dit. Mais c'est sûr qu'une curiosité envers le Québécois peut être plus difficile pour certains parce qu'on est engorgé par une multitude de productions qui sont du côté américain. Donc, c'est sûr que le goût d'aller voir ailleurs est toujours un peu plus tentant. Donc, beaucoup en ATM, on essaie de se ramener à la base. Ici, on est au Québec et on est fiers de consommer du contenu québécois. Et cette année, j'ai jamais vu autant de jeunes consommer du contenu québécois.
Comme quoi, Juliane? Comme quoi?
Et beaucoup de musique. Thierry Larose, Violette Pie, Claude Pelgag, même Gad Bouchard qui vient de sortir son nouvel album. Côté musique, on est très, très, très présent. On écoute même du vieux comme Harmonium. Mais aussi dans les balados, comme je pense à Jay Tutam discute, Entre filles de Sarah Maud Beauchesne, Mike Ward vous écoute, sont des balados très, très, très écoutés ici par les étudiants.
Juliane?
Et en plus de ça, on suit Audio aussi qui nous aide.
Juliane de MCGL ici, bonsoir. Salut. Je voulais savoir, est-ce que, vu que tu étudiais à l'ATM, j'imagine que tu veux travailler en radio ou en télévision?
Moi, je suis en publicité, donc c'est le petit volet qu'on souvent on connaît pas vraiment.
Okay.
Mais mon but, c'est d'aller dans la création d'événements.
La création d'événements, mais est-ce que, parce que là, tes collègues sont quand même, dans votre cégep, là, font aussi télévision, radio, pub, est-ce que tu consommes ce que les gens qui font actuellement le travail que tu veux faire, qu'est-ce qu'ils font au Québec? Comprends-tu ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faudrait toujours bien que je regarde qu'est-ce que je veux faire.
Qu'est-ce
dans
qui
la vie?
Se passe dans le marché? Si vous êtes nos futurs ambassadeurs, ben, il faut que vous compreniez le marché médiatique et de télévision et etc. Là.
Dans ton cas, regardez la pub qui se fait ici.
Laissez-la répondre, camarade.
Oui, donc c'est ça justement. Oui, on consomme. Moi, là, je suis une des grandes animatrices de Ici Première, Ici Musique, même ici 98.5 quand je suis du Saguenay. Donc, c'est des places comme ça dont on prend l'exemple, mais ça ne veut pas dire reproduire la même chose. Donc, c'est ça aussi qui est différent. C'est que maintenant, on est dans une culture qui veut faire du renouveau, qui veut recréer, reconnecter avec son identité, puis toujours faire les mêmes histoires, les mêmes blablas. À un moment donné,
Juste une seconde, Juliane. Quand vous dites les mêmes histoires, les mêmes blablas, à quoi vous faites référence en particulier?
Ben, je fais référence surtout au petit écran parce que il faut qu'on remarque au petit écran, les émissions restent avec approximativement la même histoire de base. C'est-à-dire, souvent on arrive dans un milieu, une nouvelle personne est là et tout à coup il arrive un drame. C'est-à-dire la mort de quelqu'un, un incendie, quelque chose comme ça. Et cette histoire-là va prendre l'élément déclencheur qui est la personne qui décède pour aller complètement ailleurs au fil des saisons. Donc, on va arriver dans une panoplie d'événements qui viennent à la longue surréaliste pour un être humain de vivre autant de choses. Donc, nous, on veut retourner à l'essentiel, retourner à ce que les êtres humains vivent réellement, c'est-à-dire des situations familiales très compliquées, de la santé mentale, même la crise climatique, on peut en parler. Là.
OK, mais dans ce que vous consommez de petit écran ailleurs, qu'est-ce qui se rapproche de ces envies-là?
Ben moi, je pense que si on compare avec le Netflix, il y a une émission qui est Sex Education, en français, éducation sexuelle. Donc, juste dans cette émission-là, c'est une émission qui est faite de manière à attirer le jeune, mais aussi à mettre ça au goût du jour pour que nous, notre population, nous, notre génération, on comprenne. Je veux dire, lorsqu'on arrive, que j'écoute une émission qui peut être la nouvelle émission Stat, par exemple, ou même L'Échappée, qui sont des super bonnes émissions, oui, mais à la longue, on va devenir un peu désintéressé parce que il n'y a pas le volet attirant de la jeunesse. Il n'y a pas le côté qu'il se passe toujours quelque chose un peu nouveau, un peu attirant, foufou, tu sais, un côté aussi très, très humain qu'on recherche beaucoup, là.
Très intéressant. Ben écoutez, c'est toujours le fun d'avoir un son de cloche qui est un bémol, un peu discordant. Puis je pense que vous l'avez apporté avec beaucoup de verve, Juliane Doucet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ben merci à vous de donner cette visibilité-là et de pouvoir aussi faire comprendre à nos diffuseurs de voir autrement.
Salut, à la prochaine.
Au revoir.
C'était Juliane Doucet, étudiante en ATM à Jonquière, qui s'inscrit en faux contre certaines conclusions qu'on pourrait tirer à propos de l'intérêt des jeunes pour la culture populaire québécoise.
Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
On reste sur le thème de l'immigration parce que j'ai vu un tweet intéressant aujourd'hui d'un monsieur que je connaissais pas et je l'ai contacté pour l'inviter ici. Il s'agit de Mamadou Doukara, il est Québécois d'origine malienne, est arrivé ici en janvier 2005. Je vais vous lire son tweet avant de le saluer. Il a envoyé un tweet et il a dit « Le 4 octobre, je suggère à François Legault et les députés de la Coalition Avenir Québec d'aller à la rencontre des immigrants. Par exemple, prenez une marche dans le métro de Montréal, en banlieue, dans les régions. Vous allez voir que les immigrants travaillent en S. » Et là, il n'a pas mis le I à la fin de sa phrase. Monsieur Doukara, bonjour.
Bonjour, Monsieur Lagacé. Content d'être avec vous.
Très, très content de vous parler. Écoutez, comment vous avez réagi au propos de Jean Boulet? Comment vous vous êtes senti?
Ben, je me suis senti comme mon tweet, en fait. C'était vraiment difficile comme journée hier. Et quand je l'ai appris, j'ai dit, OK, bon, encore une autre bourde. Mais en réfléchissant, je me suis rendu compte que c'est plus loin que ça. Donc, c'est venu me chercher, comme on dit en québécois, dans mes tripes. C'est vraiment venu me chercher. Et ça m'a fait penser les sacrifices que les immigrants font depuis que je suis venu ici, qu'est-ce que je fais dans la société québécoise. C'est venu comme me remettre en question de l'apport que la CAQ ne voit pas envers l'immigration.
Parlez-moi un peu de votre vie.
Mais en fait, écoute, tu me donnes l'opportunité, mais je suis quelqu'un quand même assez discret. Écoute, moi, je suis arrivé au Québec. Mon père, il a tout fait pour m'envoyer au Québec à partir du Mali en 2005, comme vous l'avez dit. Moi, il m'a donné mes héritages de son vivant. Okay? Donc, il est décédé il y a 2 ans. Moi, je suis arrivé pour les études au Québec. donc à l'UQAM, j'ai eu un permis là-bas et je suis venu, ben, j'ai étudié. Mais quand je suis arrivé ici, les 6 premiers mois, j'habitais chez ma tante à La Salle. Et la première chose que j'ai dit, moi, je veux travailler parce que je veux enlever le poids économique que mon père a fait pendant des années pour m'envoyer ici. Donc, je suis arrivé, ben, j'ai fait mes études, j'ai pris pays, comme on dit souvent. Depuis 2008, je suis avec ma conjointe qui est d'origine québécoise de Joliette, OK, dans l'Anaudière. Mes deux enfants sont nés ici.
Monsieur Ducara, de Joliette, comme dirait Katia Gagnon.
Exactement, comme dirait Katia Gagnon, de Joliette. Okay? Donc, moi, je ne sais pas qu'est-ce que M. Boulay, en disant ça, il cherchait à faire comprendre c'est quoi un Québécois. C'est d'aller en camping à tous les étés, c'est d'acheter la culture québécoise, d'écouter les hauts et les bas de Sophie Paquin, passer devant Saint-Anne-de-la-Pérade et puis dire à sa conjointe, c'est ici que MC Gilles vient. Justement.
Je pense que vous l'êtes pas mal, Québécois, mon cher.
Mais écoute, il y en a des centaines et des milliers, là, OK? Et son discours est venu enlever ce côté positif-là. Les infirmières là, d'origine haïtienne, d'origine africaine, qui ont travaillé comme des fous, là, dans les reportages que la presse a publiés il y a 2 ans, il y a 1 an, ils ont travaillé à la sueur de leur front. Ils s'en vont après dans les instant chèques, envoyer de l'argent à leur famille. OK? Comme Boukhar Diouf, il dit souvent, là, en Afrique, quand on vient ici, on vient pour travailler, pour faire nourrir 10, 15 personnes qui habitent dans la même maison. Donc, c'est un peu injuste de la part du ministre. Donc, moi, j'ai propose, honnêtement, là, c'est une invitation réelle. Okay? Moi, je suis pas quelqu'un qui va aller serrer la main des politiciens, peu importe. J'ai fait de la politique, j'ai étudié en politique. Je les conseille d'aller rencontrer des immigrants, de démontrer qu'il y a de l'ouverture, okay? Parce qu'ils brisent des ponts en ce moment. Le 4 octobre, je pense, à moins d'une surprise, ils vont être élus. Mais d'aller à Montréal, d'aller en région, premièrement, je n'habite plus à Montréal, j'ai habité sur le plateau longtemps, j'habite maintenant en campagne, à côté d'un petit village de Hudson, okay, dans l'ouest de l'île. Mm-hmm. Ben, j'aimerais ça qu'ils viennent rencontrer des immigrants qui travaillent, qui veulent participer à la société québécoise, au développement socio-économique du Québec. J'aimerais ça qu'ils fassent ça. Ils vont même avoir intérêt à gagner les immigrants quand ils vont faire ce genre de gestes-là, parce qu'en ce moment, c'est brisé.
Dites-moi, est-ce que vous aviez le choix d'aller ailleurs, M. Ducara, ou c'était le Québec et aucun autre endroit?
Mais c'est une excellente question, M. Lagacé. Okay, moi, mon père est né au début des années 50. Okay? Mon père, à l'époque, les gens qui sont nés dans les années 1950, ils en allaient en URSS, okay? En Ukraine. Mon père, il est diplômé de Kiev. Okay? Ils avaient des bourses de l'Union soviétique en Afrique de l'Ouest, okay? Comme mes compatriotes sénégalais, burkinabés. Mais nous, on est venus dans le début des années 2000, mais nous, on allait soit à deux places. On allait soit en France, où on allait aux États-Unis, le rêve américain, où le Canada s'est ouvert à travers les études. Le Canada n'était pas vu comme un endroit où on va aller faire le rêve canadien, avoir de l'argent et venir construire des châteaux en Afrique. Non. Mais moi, c'était pas le choix. En fait, je voulais aller aux États-Unis en premier. Mais moi, je dis, tu sais quoi? J'ai pas eu le visa pour les États-Unis. Mon petit frère est parti aux États-Unis, mais moi, j'ai eu le visa pour le Canada. J'ai regardé les pour et les contre. Mais j'ai quelqu'un qui vit déjà au Québec, ma tante, qui vivait au Québec depuis l'an 2000, à La Salle. Elle est là, elle peut m'intégrer au Québec avec ses enfants qui étaient là. Moi, j'ai eu un permis pour venir étudier à l'UQAM. On parle français. J'ai la possibilité d'avoir la résidence permanente et la citoyenneté. Ben, j'ai choisi le Québec. J'avais le choix d'aller au Maroc, en France, mais vous savez qu'est-ce qui se passe là-bas. L'extrême droite en France a mis des choses politiques. L'immigration n'est pas l'idéal pour tout le monde.
C'est un plaisir de vous parler.
Ben, écoutez, Patrick, rapidement, vraiment, au nom de tous les immigrants, j'ai pris votre opportunité pour parler au nom des immigrants qui travaillent, OK? Ceux qui sont reparus dans toutes les sociétés. Mais au Québec, là, OK, il y a 65% des immigrants qui sont sur le marché du travail versus 63% du reste de la population. Ça, c'est Statistique Canada il y a 30 jours. Donc, je crois que la CAQ a intérêt à faire plus d'ouverture. Merci infiniment.
Bon, on se voit au poisson des chenots, mon cher.
Je vais amener mes enfants l'été prochain, au printemps, là, c'est sûr.
Parfait.
Merci beaucoup. Salut.
Ça fait plaisir.
Vous avez aimé ce que vous avez entendu? Patrick Lagacé en accéléré est disponible sur Apple et Spotify. Abonnez-vous pour ne rien manquer. C23, c'est l'extension naturelle de votre station préférée. Sous forme de balado à écouter en tout temps, où que vous soyez, C23, c'est du contenu créé pour vous. C23, c'est toute l'opinion, l'actualité, le divertissement et l'émotion de votre station préférée.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.